France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le festival d'Avignon selon Jean Villard.
Les sanglantes leçons que nous donnons au monde. Le monde les apprend si bien qu'il les retourne contre nous-mêmes. Et le geste équitable de la justice ramène à nos propres lèvres le calice que nous avons empoisonné.
Beaucoup encore se souviennent de la silhouette de Villard, simple mais élégante, le chapeau, la pipe, les espadrilles, et de cette voix qu'on vient d'entendre et à qui il imposait le calme, l'inflexibilité, sans jamais la vulgarité. Pendant un quart de siècle, il fut l'âme des étés d'Avignon. À sa mort en 1971, le festival réussissait à réunir tous les arts, un peu comme l'opéra. Villard rêvait alors d'un opéra populaire, encore plus que d'un théâtre populaire, d'une grande geste qui, joignant la scène et l'écran, la voix et le corps, réunirait un public de citoyens le plus large possible. Car Avignon, c'était bien autre chose qu'une étape sur la route de l'île Loisirs du Sud, c'était la cité en acte. Depuis, Avignon est passé de l'âge héroïque à l'âge médiatique, mais le pont n'a pas été coupé. Le festival tranche encore sur les autres. Et le centième anniversaire de la naissance de Villard, cet été 2012, va obliger la manifestation d'aujourd'hui à se situer toujours dans une filiation d'intransigeance. Emmanuel Loyer, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié il y a peu chez Gallimard avec Antoine Debecq une grande histoire du Festival d'Avignon où vous racontez un peu la jeunesse de Jean Villard, enfant de 7, élève de Charles Dullin, le pilote du théâtre de l'Atelier, et pour qui l'époque de Vichy, théâtralement parlant, avait été d'ailleurs assez faste avant 47, avant la naissance du festival.
Oui, comme beaucoup d'autres théâtreux de cette génération, en effet, Vichy, ça a été une période faste, en tout cas où, à travers l'association Jeune France, tous ces jeunes metteurs en scène, de gauche entre guillemets, ont pu bizarrement, et ça demanderait des développements, entrer en résonance avec certaines formes de rénovation orchestrées en fait par la politique du maréchal Pétain.
Il y a eu une augmentation des subventions pour la diffusion théâtrale.
Voilà, c'est-à-dire contre le théâtre de vaudeville, le théâtre bourgeois, au contraire pour le théâtre de plein air, un théâtre de régénération. Alors cette régénération, eh bien, régénération nationale, je ne veux pas surestimer la continuité, mais ce serait une autre forme de régénération que Villard va proposer après 45.
À Paris, au théâtre, malgré ses succès à la Libération, il respire mal, il lui arrive de faire du cinéma. Le destin se rapproche de lui, il habite même le personnage du destin dans Les Portes de la Nuit, le film de Marcel Carné en 1946.
Chacun a sa histoire, toi comme les autres, et comme les autres. Tu ne sais pas comment elle finira, ton histoire.
Bien sûr, c'est une surprise.
Oui, une surprise. Sais-tu pourquoi tu es venu ici ce soir?
Si tu veux savoir, je suis venu ici parce que j'avais rendez-vous. Et pas plus tard que ce soir. Avec qui? Avec une belle fille. La plus belle fille du monde. T'entends? La plus belle.
Pourquoi pas?
C'est pas tout ça, mais j'aimerais pas rater le métro. Quelle heure as-tu?
11h10 exactement.
L'horloge parlante maintenant.
Crois-moi, tu ferais bien de te dépêcher. Tu n'as pas une minute à perdre.
Écoute, t'es bien gentil, mais tu commences à être fatigant. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux?
Je ne veux rien. Je suis le destin.
Ça, alors, c'est un monde.
Le monde est comme il est. Ne comptez pas sur moi pour vous donner la clé. Je ne suis pas concierge. Je ne suis pas geôlier. Je suis le destin. Je vais, je viens. C'est tout.
Il y a toujours un peu de solennité chez Villard. Sait-il pourquoi et comment le destin l'a-t-il amené à Avignon en 1947, l'année d'après Carné?
Destin, on peut bien parler de destin en effet, parce qu'il y a une série de rencontres qui préside à la naissance du Festival d'Avignon, qui est en même temps complètement contingent, il aurait très bien pu ne pas exister, et en même temps, il y a des amitiés foudroyantes qui expliquent le début du festival, avec les deux personnages importants étant le couple Zervos, qui étaient des marchands d'art, galeristes, critiques, et puis René Char, qui finalement est celui qui va être l'intercesseur avec ce monde de l'art qui, disons, orchestre le début de cette première semaine d'art en 1947.
Semaine d'art, l'idée c'est le rapprochement des arts, juxtaposé des spectacles avec une exposition, le témoignage de Maurice Coussonneau, dans la marche du siècle de Jean-Marie Cavada. La marche de l'histoire rend à cette occasion hommage à la marche du siècle.
Et il y avait un marchand de tableaux qui s'appelait Zervos. Il organisait à ce moment-là une grande exposition d'art moderne dans la grande chapelle du Palais des Papes. Et il est venu trouver Villard en lui disant « Ça serait formidable si on venait jouer Meurtre dans la cathédrale dans le Palais des Papes. » Et Villard n'était pas chaud. D'abord, il trouvait que ça faisait un peu pléonasme. Meurtre dans la cathédrale, Palais des Papes, ça ne l'emballait pas. Il avait d'abord dit non. Et puis, 8 jours après, nous sommes arrivés à la nuit tombante dans cette cour d'honneur. Et on est resté là au moins 4 ou 5 minutes sans dire un mot. Il y avait Maurice Cazeneuve, Jean et moi. Et puis tout d'un coup, il y a eu un petit coup de vent, il y a eu un petit écho qui est passé. Et là, Jean a commencé à balancer quelques alexandrins qui ont commencé à résonner un peu sur les murs. Et on s'est senti tout d'un coup, non plus des étrangers, mais comme avec l'impression qu'on avait lié un petit peu d'amitié avec cette cour qui était austère finalement. Hein. Et c'est de là que c'est parti. Moi, j'ai un souvenir de ça extraordinaire. C'est surtout ces longues minutes de silence parce qu'on était impressionnés par le lieu.
Alors, Villard est toujours un peu solennel. Villard dit toujours non dans un premier temps. Et là, il dit, Emmanuel Loyer, oui à la cour. Mais alors, la cour, c'est une architecture presque abstraite, des murs altiers. Et puis, il faut entrer dans le concret du spectacle avec le vent, l'ouverture extraordinaire devant le public, faire avec du concret.
Oui, et c'est surtout, évidemment, ce qui compte, c'est que ce n'est pas un lieu de théâtre. C'est la cour donc, du Palais des Papes qu'on connaît aujourd'hui, qu'il a fallu aménager. Mais on sent, dans la citation de Coussonneau, une sorte de sidération quand même, et certainement de prise de conscience comme ça dans l'hiver, ils y vont au printemps, qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ce lieu. Mais il faut le constituer, il faut le construire. Donc là, c'est toute l'histoire ensuite de la... Il a fallu mettre des chaises, mettre la scène. Ça, c'est les pompiers avignonnais qui vont aider. Mais en tout cas, évidemment, le festival naît d'abord par la rencontre avec ce lieu extraordinaire.
Et puis la rencontre d'acteurs entre eux. La semaine d'art, c'est le fait d'une petite équipe pionnière.
Oui.
Des gens qui vont être riches et célèbres, et
oui.
qui sont déjà jeunes et beaux.
Oui, mais qui sont tout jeunes. Hein. Alors, on parle souvent de Jeanne Moreau qui a 18 ans. Et c'est des gens qui étaient plus ou moins autour de Villard et qui vont se retrouver dans cet été avignonnais et ensuite constituer une équipe, en effet, qui frappe vraiment par sa jeunesse et dans des conditions qui sont les conditions de camping total en 1947.
Alors, il y a déjà Noiret, il y a déjà Chaumette.
Oui. Monique Chaumette, exactement.
Sylvia Monfort qui vient accompagner de son époux, Maurice Clavel, 25 ans, professeur résistant, écrivain, gaulliste. Il a produit un texte que va monter parmi les 3 premières pièces de la semaine d'art Jean Villard. Mais l'œuvre principale pour la cour d'honneur, c'est Richard II de Shakespeare. Témoignage pour France Culture, micro de Christine Goémé de Clavel.
La veille, après la répétition de Richard II, vers minuit, Villard, dans sa robe rouge royale, a demandé combien de places louées pour la première de Richard II. On lui a dit, je crois, 60. Alors nous avons senti passer le vent du désastre. Et Villard m'a dit, écoute, tu as quand même la langue bien pendue, tu vas aller faire tous les journaux de Marseille et tu vas placer notre marchandise. Et je lui dis, qu'est-ce que je leur dis ? Mais il me dit, enfin, tu sais, tu vois, hein, tu vois. Je lui dis, non, écoute, quand même, donne-moi quelques thèmes. Bon, alors il s'assied. Et là, il m'a exactement raconté, avec beaucoup d'années d'avance, le TNP. Toute la doctrine, pas seulement celle du festival, mais celle de l'absence de décor, de la suggestion du texte, de la grande et rigoureuse clarté qui contribue à l'ampleur de la mise en scène. Bref, tout ce qu'on a dit depuis, tout ce qu'on a théorisé depuis, il l'a théorisé devant moi. Je suis allé, j'ai raconté ça, et nous eûmes un modeste tiers de salle pour cette première. Par bonheur, il y eut deux ou trois critiques parisiens qui s'enthousiasmèrent déjà.
Les spectateurs étaient massés autour d'une grande plateforme. On dirait une sorte de ring, une lisse ouverte de tous côtés aux comédiens. Et cela modifie singulièrement le caractère du spectacle. Il n'y a sur ce plateau aucun décor. Il est évident que les décors sont inutiles, que notre imagination, pour les construire, se suffit du texte de Shakespeare. Que sans décor, le rame shakespearien trouve enfin son rythme, et qu'à cette condition, le débat devient sans cesse attachant pour le public.
Alors je suis content, Emmanuel Loyer, de vous faire entendre le témoignage du cher Paul-Louis Mignon, qui était là en 1947. 3000 places, 7 représentations, et Paul-Louis Mignon, aux trois spectacles, qui à propos de la cour, parle de la simplicité, de la solennité, bien sûr, et aussi de la lisibilité.
Oui, c'est-à-dire que là, on voit que de façon même parfois un petit peu, non pas cynique, mais de façon, il veut faire venir des spectateurs. Donc, il faut vendre quelque chose. Mais évidemment, c'était tout à fait sincère. C'est-à-dire que là, on a vraiment la formulation de ce qu'on peut appeler la grande forme avignonnaise, qui ne va pas se trouver tout de suite, mais enfin, dont la formule est déjà esquissée là. C'est-à-dire, en effet, le tréteau nu, ce qui n'est pas nouveau. Hein. Depuis Copeau, il y a cette tradition. Mais une grande simplicité de moyens, un répertoire qui va s'avérer être un répertoire classique et en effet la pureté d'une langue et disons bon des costumes et en effet la lisibilité qui est quelque chose de très important avec cette idée déjà de que le théâtre gagne disons à la fois en public et en sens. Bon, donc ça c'est quelque chose qu'on voit arriver là en 47 et qui va tout de suite signer quand même une présence esthétique, une forme esthétique liée à Avignon.
Dans la geste esthétique d'Avignon 1951 ensuite, a marqué d'une pierre blanche, d'abord parce que c'est l'arrivée de Gérard Philippe.
On frappa à ma loge un garçon que je connaissais assez mal, que je n'avais pour ainsi dire pas rencontré, se présenta, parla un moment et dès la deux minutes de conversation me dit tout directement « Je désire travailler avec votre équipe à Avignon » car à ce moment-là, je n'étais pas encore directeur du TNP. Donc, ce qu'on peut souligner aussi, c'est que cette proposition de Gérard était absolument désintéressée puisque je n'avais ni théâtre ni équipe fixe.
Nous partîmes 500, mais par un grand renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. J'en cache les deux tiers aussitôt qu'arrivés dans le fond des vaisseaux qui leur furent trouvés. Le reste, dont le nombre augmentait à toute heure, brûlant d'impatience, autour de moi demeure, se couche contre terre, et sans faire aucun bruit, passe une bonne part d'une si belle nuit.
Gérard Philippe, qu'on vient d'entendre après Jean Villard, il aurait pu rompre l'harmonie, parce que c'est une vedette. Il y avait un type qui se faisait passer pour Gérard Philippe, dites-vous, dans votre livre, et qui faisait basculer les têtes des Avignonnaises. Mais non, l'essentiel, c'est qu'il représente l'attente de toute une génération.
Oui, c'est vrai que Gérard Philippe, c'est à ce moment-là une vedette et une vedette de cinéma. Mais il va s'intégrer à la troupe et d'autant plus qu'en effet, il trouve très vite sa place comme la silhouette, je dirais, d'une forme d'héroïsme ou, enfin, en tout cas, disons, d'attente d'une génération qui, ne l'oublions pas, on est en 51, c'est 6 ans après la fin de la guerre, en France, donc 6 ans après des déchirements, une forme de guerre civile. Et c'est vrai que c'est classique, disons, cet héroïsme dramaturgique qui va être mis en scène à Avignon. C'est aussi une forme de reconstruction d'une communauté nationale qui a été déchirée, ou en tout cas, et c'est le lieu du théâtre, on fait comme si.
Les classiques, dites-vous, Lorenzo Cio, le prince de Hambourg, le Cid, qu'on entendait. Mais Jean Villard, il attendait aussi, en plus de Gérard Philippe, l'auteur moderne.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que Villard, il est sans doute un peu trop réduit aujourd'hui à ses classiques, qui n'étaient pas toujours des classiques. Hein. D'ailleurs, Le Prince de Hambourg, en fait, c'est quand même, c'est devenu un classique parce que c'est une pièce ancienne, mais ce n'était pas dans le répertoire commun. Mais par ailleurs, Villard a essayé de monter, de trouver un peu, j'allais dire, son anouille à lui, hein. C'est-à-dire un écrivain contemporain. Et il a, en effet, pendant les premières années, on l'oublie un peu trop, monté des pièces de Gide, de Thierry Molnier, enfin d'ailleurs d'auteurs politiquement éclectiques. Et il n'a jamais trouvé, il a essayé, hein. Il a essayé avec Camus, il a essayé avec Malraux, il a essayé avec Sartre, et ça n'a jamais fonctionné. Et lorsqu'à partir de 51, il dirige le TNP, il va sentir que, disons, le répertoire classique s'impose pour des raisons, je dirais, de politique générale démocratique du théâtre.
51, donc c'est la construction du TNP qui va fournir l'ossature de la programmation. Jusqu'à 63, Jean Villard quitte alors la direction du TNP, reste directeur du Festival d'Avignon. 66, l'écart se creuse entre la colline de Chaillot et Avignon. Et ça va permettre à Villard, qui aime prendre des virages pour rester le contemporain de son époque, d'élargir le champ.
Oui, c'est vrai que lorsque, bon, ça marchait très très bien et au TNP et à Avignon, à partir du moment où il va quitter le TNP, il reste directeur du Festival d'Avignon. Et là, et c'est en effet à partir de 66, il va intégrer d'autres arts, donc un peu comme au tout début du festival, et il va complètement révolutionner son propre festival. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de ce genre de coup d'état sur lui-même et qui est assez mal à l'aise quand ça marche trop bien, finalement. Donc, il fait une sorte de virage au milieu des années 60 parce qu'il se rend compte qu'il y a déjà une quinzaine d'années, on n'est plus dans le même temps. Il est en effet tout à fait, il a des antennes sensibles sur son contemporain. Et donc, il intègre de la musique, il intègre du cinéma. Et il fait d'Avignon, à partir de 67 et jusqu'à aujourd'hui, alors qu'Avignon restait quand même très centré sur le théâtre, une sorte de plateforme avec une majorité théâtrale, mais de différents arts.
Ainsi, en 67, avant la projection Cour d'honneur de La Chinoise de Jean-Luc Godard, ce serait intéressant de raconter la rencontre de Godard,
oui,
et de
Villard. Ça a été un peu une non-rencontre, je crois.
Il y a la messe pour le temps présent chorégraphiée par Béjart. On a beaucoup parlé de la révolution radieuse qu'apporte Béjart à partir de l'année 1966. La messe pour le temps présent en 1967, c'est sur une musique électronique de Pierre Henry.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le Festival d'Avignon, avec Emmanuel Loyer, qui a publié en compagnie d'Antoine Debecq chez Gallimard, une très belle histoire du Festival d'Avignon qui est toujours disponible, illustrée, des photos, des danseurs de Béjart. Alors Gérard Philippe a fait tourner les têtes, il est mort. En 1967, ce sont les danseurs de Béjart qui ravagent Avignon.
Oui, non, c'est vrai que l'arrivée tout d'un coup de la danse et de la danse la plus contemporaine avec ses corps de danseurs, ravage Avignon parce que par ailleurs, une autre des spécificités d'Avignon, c'est aussi cette cohabitation du public et des comédiens ou des danseurs. On les croise au café, on les croise à la piscine, on les croise dans les rues, c'est très important. Si vous pensez au Festival de Cannes, on n'a pas du tout le même type d'économie avec le public. Donc là, les danseurs de Béjart, paraît-il, ont séduit beaucoup autour d'eux.
Alors, on a fait une histoire esthétique. Je vous propose maintenant qu'on fasse une histoire politique. Ce n'est pas du tout la même chose, par exemple, le modèle du Festival d'Aix et le modèle du Festival d'Avignon. Aix naît à peu près à la même époque, avec l'argent du casino, qu'il faut recycler. L'idée s'épanouit dans le salon d'une comtesse. Tandis que à Avignon, on est en train de bricoler, avec rien dans les poches, quelque chose, avec une municipalité qui, en 1947, était communiste.
Oui, alors Peut-être qu'il faut dire, c'est vrai que l'après 45, c'est un moment où naissent beaucoup de festivals. Certains, les festivals existaient déjà, mais vous avez par exemple au même moment en 1947 le festival d'Édimbourg, qui est aussi un festival de théâtre. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a un moment là, après la guerre aussi, le festival c'est aussi cette utopie finalement de réconciliation des peuples par le savoir, la culture, etc. À partir de là, dans cette géographie festivalière, il y a plusieurs options. Et c'est vrai que c'est très intéressant de comparer Aix, Bayreuth qui existe, qui est le modèle, bon. Et puis ce qui est en train de s'inventer à Avignon, où avec ça commence avec une municipalité communiste en 1947, et le maire a été très important, le docteur Ponce. Le problème, c'est qu'à Avignon, il y a une sorte d'histoire politique locale un peu chaotique de ces années-là, et donc il va y avoir des transformations dans la municipalité. Et
je vous propose qu'on les suive pas à pas. C'est maintenant le deuxième versant de l'émission, hein, l'histoire de crise politique. Dès le second festival, dès 1948, la municipalité a glissé à droite, et il y a un groupe RPF, le RPF de Gaulle et de Malraux, auquel appartient fort judicieusement Maurice Clavel, dont on prend toujours plaisir à écouter les récits, parce qu'il s'y peint toujours un peu à son avantage.
Au second Avignon, nous arrivons pour apprendre que le conseil municipal d'Avignon, plus exactement la fraction RPF du conseil municipal d'Avignon, avait refusé la subvention, de telle sorte que nous nous trouvions dans nos chambres et dans nos restaurants collectifs en grivellerie virtuelle. Et alors il fallait voir les yeux de nos restaurateurs et logeurs sur nous. Villard m'a demandé, ou je lui ai proposé, puisque RPF il y avait alors, de téléphoner à Malraux. Et alors je me souviens encore par 35 degrés à l'ombre de cabines téléphoniques où l'on ruisselait de sueur en demandant à Malraux qui était toujours là quand on le cherchait ici, etc. Il ne fuyait pas parce que je me souviens qu'au bout de 2 jours d'angoisse, j'ai réussi à joindre Malraux, et là, Malraux a fait de ses oukases. La fraction du conseil municipal d'Avignon a reçu un télégramme qu'il faut que je cite en hommage à Malraux, là. Le télégramme commençait ainsi. « Étant donné importance européenne future du festival d'Avignon, je vous demande de revenir sur votre décision, etc. »
Alors voilà, la crise est solutionnée par le talent de Clavel. Malraux dira d'ailleurs que dans l'héritage de la 4e République, il y a quelque chose à sauver, c'est Villard et le TNP.
Oui. Malraux n'est pas encore ministre de la Culture, ça n'existait pas.
Il est juste délégué du RPF, mais il a de l'influence sur les gaullistes du Conseil municipal. Alors vous disiez que la municipalité ne cesse de changer. Elle va passer au taureau du Vaucluse ensuite, parce que tout le monde pense que Édouard Daladier, qui était surnommé ainsi, était mort politiquement en 1940. Non, mais il rebondit sous la 4e République. Et il y a un comité de notables qui prétend soutenir le festival, mais qui veut en fait le manipuler pendant cette municipalité d'Aladier.
Disons que depuis le début, il y a toujours la municipalité va financer en partie le festival, mais il y a toujours la tentation par les édiles locaux et puis par les notables de quand même superviser la programmation du festival, ce que Villard n'acceptera jamais. Donc ça se produit déjà en 48-49, c'est eux d'ailleurs qui vont dire « Ah, le CID, c'est pas terrible, c'est un peu scolaire, etc. » Et puis ils remettent ça à plusieurs reprises, et surtout dans des moments de fragilité de Villard. Or, Villard, dans ces années, notamment en 53-54, est attaqué à sa droite, est attaqué par le Parti communiste également. Et donc c'est un moment en effet de crise où de nouveau se pose le problème de la programmation. Et Villard, dans ces cas-là, avec vous avez dit, c'est un homme qui sait dire non, c'est vrai.
Il démissionne.
Il est démissionnaire, alors il faut aller le chercher.
Il faut dire que les notables avaient amené Maribel qui descend à l'hôtel.
Oui, c'est ça,
il
y a toujours des remplaçants.
Avec sa programmation, une cour de jeunes gens.
Oui, bon, il voit tout de suite que ce n'est pas du tout sérieux. Mais c'est vrai qu'il va y avoir des... Par ailleurs, le festival en crise, d'une certaine façon, pendant toutes ces premières années, le festival... Et peut-être c'est une constante jusqu'à aujourd'hui. J'aurais envie de dire le festival est constamment en crise. C'est là peut-être d'où il tire son énergie.
La question de sa survie se pose dès la naissance à la vie. En 1954, il a finalement été rattrapé par les Basques, par Daladier. Et quand il donne Macbeth, il arrive parce qu'il a somatisé pendant tout cet hiver, bredouillant, titubant sur la scène, dites-vous, Villard.
Oui, hein, en plus, c'est quelqu'un, Villard, enfin, je pense que nos auditeurs connaissent cette silhouette très maigre et flanquée, de chat efflanqué. Et c'est quelqu'un qui vit plusieurs vies à la fois. Et c'est vrai que là, il est complètement épuisé et il est sujet aux ulcères à l'estomac. Et autant il réussissait quand même à maîtriser tout ça, là, apparemment, il savait à peine son texte. Enfin, il était un peu lamentable parce qu'il ne connaissait pas, il n'avait pas eu le temps du tout de
dans l'histoire des municipalités d'Avignon, il y aura toujours un conseiller municipal de droite, plus tard un maire de droite, pour dire qu'il faut programmer Mireille Mathieu.
Oui.
Ça va arriver, d'ailleurs, dès le vivant de Villard, parce qu'elle n'est pas citoyenne au sens où l'entend Villard, mais elle est native d'Avignon. Mais il faut, pour un bon festival, qu'il y ait des gens de talent sur la scène, mais il faut aussi un public qui a du talent.
Oui.
Alors, il y a le public qui appuie Villard politiquement.
Oui, parce que c'est un public qu'il a construit, là aussi. On disait tout à l'heure, il a construit le public. Dès le début, pour lui, le public, c'est une sorte de mini-communauté nationale. C'est un microcosme. Il veut qu'il... On connaît cette citation de Villard. Il faut un public qui réunisse à la fois le facteur, l'agrégé de lettres, etc. Bon. Donc, je crois que ça, c'est une des choses les plus essentielles du festival. C'est en effet cette constitution du public qui, non seulement a des facilités pour venir sans que les places soient trop chères, etc., avec aussi les comités d'entreprise, toute cette organisation, mais aussi, et c'est là, je crois, la spécificité d'Avignon, c'est les discussions autour des spectacles.
Avec un lieu, le verger au flanc du Palais des Papes, le verger du pape Urbain V. Alors, il arrive parfois que le public a tellement de talent qu'il veut prendre le pouvoir. Enfin, le public de 68 a-t-il tous les talents? Dernière grande crise qu'est connue Villard, mai, ou plutôt juillet 68, parce que le mouvement est en récession en juillet quand commence le festival. Des élections législatives ont eu lieu avec une marée de droite, notamment
à Avignon,
et il y a radicalisation des professionnels et des intellectuels qui se sont tous repliés sur le lieu de rendez-vous de Jean Villard, avec un fort décalage que vit la population avignonnaise.
Les débats du verger ont plutôt contribué à éloigner la population avignonnaise du verger parce que le langage qui s'y parlait était beaucoup trop loin d'eux et ils ne le comprenaient pas. Ça n'avait aucun rapport avec leurs problèmes. J'ai l'impression que pour les Avignonnais, le festival était une fête, était devenu une tradition, et brusquement, ils ont eu le sentiment que cette tradition était rompue et le ton les a profondément choqués.
Ils ont déjà vu des choses qui étaient vraiment abominables en public, vous voyez, les places d'horloge, tu arrives presque à faire l'amour sur une place où il y a quelques milliers de personnes dessus. Monsieur, je m'excuse, mais je ne peux pas admettre ça.
On n'est plus chez nous, que les caracs. Vous savez pas ce que c'est, les caracs?
Qu'est-ce que c'est que des caracs?
C'est des bohémiens, c'est des gens sales.
Il y a une image négative qui s'est fixée là, à ce moment, et qui continue d'ailleurs d'opérer à Avignon. Mais le festival, il a tenu jusqu'au bout, ça n'a pas été comme Cannes, il n'a pas été annulé.
Oui, non, il a tenu jusqu'au bout avec, c'est vrai, une confrontation vraiment de deux cultures politiques finalement qui se sont rencontrées. Villard étant une sorte navigant un peu à vue, ayant en effet comme objectif de maintenir le festival. Et finalement, il y a plus ou moins réussi. Bon, il y a eu des annulations, il y a eu des... Mais disons que je crois que là, on a enregistré un peu en effet à la fois la fin du flux contestataire. Mais en même temps, Villard n'était pas non plus anti-68, comme on le dit. C'est-à-dire que lui-même avait, quelques années auparavant, finalement, été à l'initiative de ces nouvelles troupes, comme le Living Theater, etc.
Donc, il
avait invité le Living Theater à Avignon en 68.
Il a, dites-vous, avec la métisse d'Ulysse, la russe.
Oui, c'est un homme.
Navigué entre l'extrême gauche, incarné plus ou moins par le Living Theater, la droite avignonnaise, on entendait ses représentants, conscients ou inconscients, et puis ses principes, avec beaucoup de calme.
Oui, comme toujours, avec beaucoup de calme, ce qui ne signifiait pas que je crois que les choses ont été quand même très difficiles, parce que ce qui lui faisait peur, c'était aussi que ça dégénère, qu'il y ait des blessés, etc. Bon. Mais avec beaucoup de calme, d'intransigeance quand c'était nécessaire, et en effet une certaine ruse qui le faisait dialoguer avec tout le monde, sans non plus, aller trop dans le sens des uns et des autres. Je crois que de toute façon, il était tout à fait lucide sur les enjeux qui se posaient là en juillet 68. C'est vrai que c'est une sorte de décalage par rapport au mai 68 et donc de décalage radicalisé. C'est une période, je crois, qui est tout à fait intéressante.
Crise cardiaque après pour Villard. Mais quand même, 69, 70, le festival continue avec beaucoup de succès. On n'a pas parlé de la graphie de Jacquenot, on n'a pas parlé de Maurice Jarre et de ses trompettes. Villard meurt en 71, on ne succède pas à Villard.
Non, d'ailleurs, ensuite, il n'y a pas eu de directeur en titre, c'était toujours direction Jean Villard.
Ouais, c'est vrai que Paul Puot a dit, on continue.
On continue.
Alors, sur France Inter, beaucoup de rendez-vous avec le Festival d'Avignon, édition 2012. Et puis, le 6 juillet, Vincent Josse, une émission sur Jean Villard. Et le 14 juillet, une longue émission spéciale par Laure Adler. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec à la préparation Frédéric Martin, Franck Olivard et Laetitia Legrand. Et à la technique, Patrick Henry et Sophie Moreno.